avec un rappeur dont je suis sûr que vous connaissez par cœur au moins un des tubes. Il a rythmé en tout cas l'adolescence et les soirées dans lesquelles se rendaient Léa ou moi. Son nouvel album est sorti vendredi, il s'appelle This Is Zilla, il est très réussi. Boomerang avec This Is La Peste, c'est parti. Je sais pas vous, mais moi je me méfie des bandes-annonces. Pas vraiment pour ce qu'elles spoilent ou révèlent, quand on a l'impression d'avoir vu le film après une minute d'image clippée, vous savez. Non, je me méfie des bandes-annonces parce qu'elles reposent sur une promesse dont on sait qu'elle n'a souvent rien à voir avec ce qu'on verra. Je me méfie aussi des premières notes d'une chanson, de l'ouverture d'un spectacle ou de la première page d'un roman, parce qu'ils dessinent des projets dont on sait pas vraiment s'ils seront réalisés, des horizons qui risquent de nous décevoir si on y prête trop attention. De la même façon, je me méfie des lancements de grands plans d'action. Cette déclaration par exemple qu'on éradiquera la pauvreté sur une génération. Ouais, sur le papier, c'est une belle ambition, mais dans les faits, est-ce qu'on ne connaît pas la chanson? Celle d'un budget annoncé pour plusieurs années, 8 milliards à diviser en 4, celle d'un budget qui vient après la suppression de l'ISF, la création de la flat tax à 30%, la baisse des APL ou des contrats aidés, celle d'une théâtrale annonce qui fleure bon la communication. Après tout, c'est ça une bonne annonce, c'est moins de l'art que de la communication. Et plus ça va, plus je me souviens de cette leçon de cinéma. Ce qui compte, c'est pas la bande annonce, c'est le film une fois déroulé, quand on se rend compte qu'il est fidèle à ce qu'il promettait, le jour où le réalisateur a commencé à dire action.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quel enjeu, quel défi est la pauvreté pour mon invité d'aujourd'hui? Il est musicien et vient de sortir son 12e album qui s'appelle This Is Zilla, du monstre de l'enfance et de l'inclassable, comme il nous a habitué à le faire depuis ses débuts fracassants sur la scène rap il y a 18 ans. Bonjour This Is La Peste.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Un grand plan d'action contre la pauvreté, est-ce que ça a un sens pour vous?
Pas trop. Pas trop, on va parler hein, sans filtre. En fait, c'est structurel, je pense que la pauvreté elle est structurelle, je veux pas rentrer dans des grandes explications, mais quand on voit que la première cause de mortalité dans le monde, c'est l'obésité et que la seconde c'est la malnutrition, on se rend compte qu'il y a un problème. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Donc ouais, c'est bien, c'est mieux que rien, comme on dit, mais bon, c'est pas ça qui changera vraiment les choses.
Le problème, c'est aussi l'effet d'annonce, effectivement. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces annonces de grands plans d'action qu'on peut entendre parfois à l'artiste, conscient que vous êtes?
En fait, pour être très honnête, je n'écoute plus du tout ça. C'est-à-dire que je suis un peu une autruche maintenant, et je fais des actions beaucoup plus directes, à ma petite échelle, à mon petit niveau. Mais je suis complètement désabusé de la politique et de toutes ces choses-là.
Alors on va en parler effectivement, parce que c'est pas pour rien que je vous parle de pauvreté. C'est parce que c'est un sujet dont vous parlez depuis très longtemps dans vos textes. Je pense tout de suite à Salaud de pauvre, sur l'album Extra Lucide, où vous disiez « chevillé à ma condition, à jamais un salaud de pauvre ». Mais aussi à votre nouveau disque qui revient sur votre parcours. De quoi est-ce que vous avez eu l'impression de manquer, vous, à l'origine?
En fait, il y a différentes frustrations. Il y a des frustrations qui sont communes à tous les adolescents, et je pense que justement l'adolescence, c'est le temps de la frustration. Donc qu'on ait de l'argent ou pas, on est frustré parce qu'on a besoin de plus de liberté, ou qu'on aimerait, si on vient d'un quartier riche, je caricature exprès, on aimerait voir peut-être plus son père, ou bon. Donc ça, c'est pas le problème. Je pense que ce dont j'ai manqué en tant que pauvre isolé entre guillemets dans un quartier défavorisé ou quartier populaire, bah c'est de rêve en fait, c'est de rêver, de pouvoir rêver au-delà de mes frontières proches, et je pense que c'est ça qui rend encore plus pauvre le pauvre. C'est-à-dire que bah c'est comme si l'avenir il était déjà limité ou cadenassé, et ça c'est vraiment pas bien en fait.
Cette impossibilité d'imaginer en fait, de rêver un autre avenir.
C'est ça, mais c'est même pas, on se dit même pas, ah oui, je rêve de ça mais je peux pas y arriver, c'est qu'on sait même pas qu'on peut rêver de ça en fait, c'est ça qui est pire.
Alors c'est le rêve justement que vous avez tenté d'apporter aux jeunes que vous encadrez depuis plus de 10 ans dans le cadre d'ateliers au théâtre de l'Odéon, je me souviens, mais ailleurs.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que moi c'est une espèce de petite vengeance, mais pas une vengeance qui détruit, une vengeance qui construit. C'est-à-dire que le théâtre de l'Odéon, quand on m'a proposé de donner des cours à des élèves en réinsertion scolaire, le théâtre de l'Odéon, moi je le connais, c'est un beau théâtre, et en fait de manière instinctive, c'était un endroit qui n'était pas pour moi. Sauf que c'est un théâtre public, j'ai autant ma place au théâtre de l'Odéon que... Et donc c'est ce que j'expliquais aux élèves, je leur disais, vous savez, ici c'est chez vous, c'est un théâtre public, ça appartient à vous, ça appartient à n'importe qui. Et du coup, on peut nous aussi, pas s'emparer des lieux, mais on peut aussi profiter du lieu et se sentir bien dans ce lieu-là. Et déjà, cette petite déconstruction-là, elle faisait pas mal de bien.
Quel regard est-ce que vous portez sur la jeunesse d'aujourd'hui, This Is La Peste?
Alors ça dépend de quelle jeunesse on parle. La jeunesse que je connais le mieux, c'est la jeunesse des quartiers. Je pense que le rap en est un des reflets, un des haut-parleurs. Et je dirais que pour faire une comparaison avec le rap des années 90 où je caricature exprès, mais c'était un rap de dealer. Aujourd'hui, on est dans un rap de junkie parce que justement, le côté désabusé et tout ça fait que, il y a un côté où on s'éclate, où on pense à autre chose et ouais, on n'est plus trop ancré dans la réalité.
Ce rap de dealer, vous en étiez une des incarnations ?
Moi, non, pas du tout. Moi, j'ai toujours été un peu un trublion, moi. J'essayais de raconter mes trucs comme je les vivais quand je faisais Ghetto Sitcom, où je parlais du quotidien d'un mec qui veut inviter une fille au cinéma, mais il a pas d'argent, alors il va vendre à Lacoste pour pouvoir l'inviter au cinéma. Il espère qu'elle va prendre que un menu pas trop cher parce qu'il aura pas assez pour payer le cinéma et le menu. Non, moi, je raconte. Et puis qu'il va dans un magasin de parfums avant parce qu'il a pas de moyen de s'acheter des parfums, donc il se met deux coups de parfum qu'il a resquillé dans le magasin.
Ça, on l'a tous fait.
On l'a tous fait, oui.
Vous auriez pu vous perdre, pour autant ?
Oh oui, moi je pense que j'avais tous les ingrédients. Mère célibataire, pas très heureuse, dans un quartier avec une proximité avec le précipice. Je pense que quand on grandit dans un quartier défavorisé, on est plus proche du précipice. Et puis il y a tout l'environnement criminogène, anxiogène, mais il y a aussi des bonnes choses. Mais il y a aussi des mauvaises choses.
Et vous dites souvent que c'est votre mère qui a fait la différence, justement.
Ouais, moi je pense que le plus important, en fait, au-delà de l'argent et de tout ça et tout, c'est ce que j'essaie d'apporter à mes enfants, c'est une boussole. Parce qu'avec une boussole, tu sais où aller. Et après, chacun met les points cardinaux dans cette boussole. Ça peut être ce qu'on veut, hein. Ça peut être, il y en a, c'est la religion, il y en a, c'est pas la religion, il y en a, c'est... On met ce qu'on veut. Mais il faut juste donner la boussole avec les points cardinaux et comme ça, on peut avancer dans la vie. Et je pense que le principal, c'est de, sans être dans un discours moraliste, mais de faire la différence entre le bien et le mal. Après, c'est relatif tout ça, mais en tout cas, de susciter l'empathie et de, c'est ce qui fait la différence entre les humains et les autres, c'est l'empathie.
Pour autant, il vous arrive encore de péter les plombs, quand même.
Hein. Vu le monde dans lequel on est, je pense que c'est compliqué de pas péter les plombs.
Et puis en concert, vous me voyez venir.
Putain, je transpire, pire, je suis en translet. Transport bloc, ça klaxonne, ça fait 2 heures que je n'avance qu'à petit feu, peu à peu, je pète les plombs. Le bouffe de derrière m'insulte et me traite de con. Sans les trous, je sors de ma caisse, prends mon sac dans le coffre et me casse. Laisse ma caisse sur le périph', rien à foutre, je trace. Trop de stress, j'ai trop faim, il me faut un McDo, j'en trouve un rentre. Y'a une queue de bâtard, mais bon, je la fais. 30 minutes plus tard environ, je demande très poliment. Bonjour à Mac Morning, s'il vous plaît, quand elle me répond. Trop tard, désolé monsieur, il est midi. Et après-midi, eh bien le Mac Morning c'est fini. Je lui dis, quand je vous ai demandé, il était 11h59. Faites un effort, je veux un morning salé, vous savez celui avec l'œuf. Elle me dit, il est midi, je vous l'ai dit, c'est fini. Prenez un Big Mac ou allez voir ailleurs si j'y suis. Je lui dis, appelez-moi le patron n'est pas là. Ajoute, allez chez le chinois, vous pourrez peut-être prendre un plat. Je lui dis, 2 secondes, sors de mon sac un calibré, la braque. Les gens derrière, qui étaient si impatients, maintenant s'écartent. Elle me dit, ok, prenez la caisse, moi je veux pas mourir, y'a plein de billets, plein de pièces. Je lui dis, un Mac morning où je tire. 3 minutes après, ma bouffe est prête et je m'apprête à partir. Quand la pute me dit, j'ai mis un Big Mac, t'aurais jamais dû le dire. Je voulais juste un Mac Morning.
Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse. Ah, j'ai plus rien à perdre, alors suce mon zop. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète des plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon zop.
Je pète les plombs, il y a 18 ans sur l'album Poisson Rouge, This is La Peste. Il est passé où le petit Poisson Rouge aujourd'hui?
Il est passé où? Waouh, il y en a eu du chemin. Vraiment, il y en a eu du chemin. Je me suis, je sais pas, on peut dire, affranchi de certains codes, de certaines mentalités qu'on a quand on grandit dans un quartier. Et voilà, je suis devenu père.
Comment vous l'écoutez ce morceau aujourd'hui?
Moi, je sais pas, il me fait rire ce morceau. Ce qui est ouf, c'est que je l'écris en un quart d'heure dans ma chambre. J'étais pas connu, je travaillais justement au McDo à l'époque. Et voilà, et c'est un morceau qui a changé ma vie, quoi. C'est-à-dire que je l'écris pour une mixtape. Là, quand on écoute bien la boucle, elle est mal bouclée, justement. Enfin, c'est pas très en place. C'est truffé de gros mots que je dirais plus aujourd'hui, en tout cas pas comme ça. Et du coup, c'est un morceau qui a changé ma vie et j'ai vendu plus de 700 000 singles. Donc, c'est.
Moi, ce que j'aime, c'est que c'est aussi une chanson qui parle de colère à travers le prisme de l'autodérision. Ouais. Et je me pose la question, dans quelle mesure est-ce que la colère, ça a été, c'est peut-être encore aujourd'hui un moteur de création pour vous?
Alors, ce qui est très étrange pour moi, c'est que la colère, j'ai toujours contenu. J'ai toujours essayé de la contenir. Parce que à chaque fois que je me suis mis en colère, j'ai regretté. Donc j'ai fait un gros travail sur moi pendant longtemps. Et ce qui est dingue, c'est que j'avais réussi à l'éteindre. Et quand je jouais Othello avec Denis Lavant pendant 1 an et demi, et que Othello, c'est quelqu'un qui se fait manipuler et qui devient fou par jalousie et qui à la fin tue l'être aimé, j'étais obligé de réactiver cette colère-là. Ouais. Donc c'était très étrange parce que, en plus, au théâtre, on ne triche pas. Donc j'ai dû réactiver cette colère-là, Mais pourtant, c'était faux. Mais j'ai dû aller puiser dans quelque chose que j'avais éteint. Donc c'est particulier.
Quelle colère est-ce que vous avez réactivé pour ce nouvel album ?
Bah, c'est ce que je raconte dans Fuck l'époque. Hein. C'est tout un tas de choses qui mettent en colère, quoi. Les voyages que je fais, justement, même quand je donne des cours à des élèves en réinsertion scolaire, quand je vois qu'il y a un espèce de mécanisme qui fait que bah, c'est plus compliqué que pour d'autres, ou que je parlais du précipice tout à l'heure, tout ça, ça met en colère, en fait.
Il est arrivé que cette colère vous déforme, vous transforme en monstre, ici de la peste ?
Ouais, je crois que là, le disque que j'ai sorti, vu les étapes un peu douloureuses et denses par lesquelles je suis passé, ça m'a un petit peu mis des coups de dague.
Vous pourriez peut-être me renseigner, parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est quoi un This Is Zilla ?
Alors, This Is Zilla, c'est une référence à Godzilla, qui est un monstre japonais, qui est un kaiju, et les kaiju, bah, c'est les monstres, ouais, au Japon. Et en fait, ce que j'aime dans la vision asiatique des monstres, c'est que c'est pas comme en Occident, où il y a une vision très manichéenne en Occident, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Frankenstein, ouais, tout ça. Alors que là-bas, quand on regarde le voyage de Chihiro, ou même Akira, dont le monde des monstres, il y a aussi de la nuance, et il y a aussi chez les monstres une part de bien et de moins bien.
Alors qu'est-ce que ce serait un monstre pour vous ?
Bah, je pense que vous êtes un monstre, je suis un monstre.
Bah, écoutez, non, mais... une bonne matinée avec This Is La Peste.
Je pense que l'humanité est monstrueuse, mais justement, vu que j'ai une vision asiatique, il y a du bien et du moins bien dans la monstruosité.
C'est intéressant parce que les Godzilla japonais, ils naissent aussi dans un contexte, celui d'un Japon traumatisé par la bombe nucléaire. Mm-hmm. Les monstres, ils ne font toujours qu'exprimer les peurs de notre société. De quoi la France a peur, selon vous, aujourd'hui, d'ici la peste ?
Je pense qu'elle a peur de son passé. Je pense qu'elle est dans le déni. Je pense qu'elle est un peu déprimée. Et peut-être qu'elle a peur de l'avenir, parce que l'avenir, forcément, par tout ce qu'on voit, c'est un avenir qui se mélange. Et il se mélange parce qu'il y a eu tout ce qui s'est passé avant, la colonisation et plein de choses. Donc forcément, de toute façon, on est liés de toute façon. Donc je pense que c'est ça qui fait peur à une certaine France, pas à toute la France. Parce que je veux pas englober, il y a vraiment des gens de bonne volonté dans ce pays, et qui travaillent tous les jours, ceux qui donnent des cours, ou bref, enfin tout le tissu social de ce pays. Je pense qu'il y a des gens de bonne volonté. Après, je pense que ce qu'on voit à la télé ou dans la représentation, c'est pas tout à fait représentatif de ce qu'est la France vraiment.
C'est pour ça que pour vous, en art, il s'agit de dire, de sortir, de montrer ce passé aussi.
Ah ben bien sûr. Bien sûr, mais pas que ce passé, justement, je parlais plus de cet état d'esprit où moi je suis en concert, enfin la France, je la vois, je la vis, je la sens, et ouais, il y a quelque chose de positif quand même.
Ça vous arrive d'avoir peur, vous ?
Non, je suis passé par des trucs un peu relous, donc non, j'ai plus trop peur.
Peur des cases, en tout cas, des catégories, des préjugés auxquels j'ai l'impression que vous résistez.
Ah, ça, c'est pas de la peur, c'est un rejet total. En fait. C'est même pas de la peur, c'est que je les éclate, je les éparpille, je les vois même plus en fait. Donc je fais vraiment ce que je veux, comme je le veux, comme je l'entends, comme je le sens, et voilà.
Y compris dans la musique.
Principalement dans la musique. Et puis aussi quand j'ai repris mes études à 30 ans, voilà, j'ai passé mon bac, j'ai fait du droit, je prenais le train, je rasais les murs de la fac parce que j'entendais « Ah ouais, c'est This Is, mais qu'est-ce qu'il fait là ?» et tout. Enfin voilà, je fais comme je sens.
Mais à quelle case, à quelle catégorie, à quel préjugé est-ce que vous avez l'impression d'avoir échappé, justement ? Musicalement, hein.
Musicalement, bah je sais pas, rappeur, cité, embrouille, je sais pas moi... Rien dans la tête, enfin tous les clichés qu'on met sur notre musique et qui sont pas vrais, quoi.
Pour vous, faire du rap, ça veut dire quoi ?
Faire de la musique, simplement. Voilà, c'est pas une émotion ou une énergie qui est différente que celle de faire du rock ou de faire je ne sais quelle autre musique. C'est un monde intérieur qu'on essaie de traduire pour l'extérieur.
Donc, alors quel regard est-ce que vous portez, vous, sur l'évolution du rap, particulièrement en France ?
Je dirais pas que ce qui s'est passé avec Kaaris et Booba, c'est représentatif du rap. Parce que ce qui est représentatif du rap, c'est tout le succès que le rap a depuis maintenant 10 ans et plus que ça. C'est ça qui est vraiment représentatif. Après ça, oui, c'est regrettable. Mais en fait, je pense que le bruit qui a été fait autour de ça... Moi, j'aimerais qu'il y ait autant de bruit sur l'affaire d'Adama Traoré, qui à ce jour n'a pas encore eu de procès digne de ce qui s'est passé. Bah, j'aimerais qu'il y ait un gros bordel et une grosse attention sur ça, en fait. Plutôt que sur une bagarre de deux mecs qui se battent parce qu'ils ont envie de se battre pour leur raison, je sais pas pourquoi.
Et musicalement, l'évolution du rap en France ?
Alors là, je vais être un petit peu piquant.
Vous êtes libre.
Il y a une phrase de, je crois que c'est un chanteur des Beatles, qui a dit que le rock français, c'est comme le vin anglais. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle d'évolution par rapport au rap, dans sa globalité en France, je pense que le rap, c'est comme un petit peu les yéyés et toute cette époque-là. C'est-à-dire que il y a des bonnes choses, il y a des bonnes individualités, mais le rap français n'est précurseur en rien du tout. Donc, quand on parle d'évolution, en fait, le rap français, il invente rien, il regarde ce qui se passe aux États-Unis, et puis il essaie de refaire la même chose. C'est pas comme les Anglais, on voit le rap anglais avec le grime et tout ça, ils ont développé quelque chose, c'est comme le rock anglais, par exemple, c'est-à-dire que ça n'envie rien aux États-Unis. Donc, il y a des individualités fortes dans le rap français, mais je pense pas qu'on peut parler de courant, ou d'évolution, ou de... Enfin, voilà.
Mais il a pu inventer quelque chose, le rap français, à une époque, à un moment?
Inventé, non. Après, quand on regarde le Trident M d'IAM ou d'MC Solar et de le fait qu'ils se soient appropriés cette culture-là dans la forme, mais qu'ils y aient mis leur fond à eux, c'est là où c'était très fort. C'est-à-dire qu'il y a quand même une particularité dans le rap français, c'est les textes. Et c'est le fait d'illustrer un certain état d'esprit ou un certain monde intérieur, comme j'expliquais tout à l'heure, par rapport au quartier populaire. Ça, c'était très, très fort.
Et puis la tension, le métissage aussi de la musique. Je pense, par exemple, à cette tension vers la pop que vous, j'ai l'impression, vous avez toujours revendiqué dans votre musique.
Ouais, vu que je suis en mode This is là, je pense que je suis un peu précurseur sur ça, dans le rap. Non, c'est vrai, parce que je me suis attiré les foudres de pas mal de mes compères à l'époque où il fallait pas faire ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, j'avais écrit un tube pour Yannick Noah qui s'appelle Métis. Et on dit, ah là là, mais pourquoi t'écris pour de la variette, tout ça et tout. Enfin, j'entendais un petit peu ça. Bon, bah, maintenant, les rappeurs font de la variette. Donc voilà, c'est, comme d'habitude, moi, j'étais guidé par mon instinct. J'ai fait ce que j'avais envie. Il y a des choses qui étaient réussies, d'autres qui étaient moins réussies. Mais en tout cas, c'était sincère.
Guidé par votre instinct, guidé par la musique que vous écoutiez aussi. Parce que ce qui est frappant, c'est que vous chantez. Somme toute.
Oui, bah en fait, ce qui est dingue, c'est que, et c'est pour ça que je parlais de cases et de déterminisme, moi j'ai grandi, je suis né en 78, j'ai grandi dans les années 80 et 90. Donc moi, j'ai regardé les émissions qui s'appellent Rapline, mais j'ai aussi regardé Les Enfants du Rock et Sex Machine. Et dans Les Enfants du Rock, il y avait quoi? Il y avait Prince, il y avait George Michael, il y avait Madonna, il y avait Michael Jackson, il y avait James Bond, il y avait David Bowie. Donc moi, j'étais imprégné par tous ces gens-là. Et quand on prend David Bowie et quand on prend Prince, c'est des mutants, c'est des monstres en musique, c'est-à-dire qu'ils mélangent plein de trucs. Ils font Prince fait du Prince, David Bowie il fait du David Bowie. Donc moi, ça m'a autant impacté que le rap. Pourtant, la société où moi-même je ne m'autorisais qu'à faire du rap. Et puis quand j'ai commencé à prendre du poil de la bête et que j'ai tout cartonné avec mon premier album, j'ai dit mais en fait j'ai le droit de faire ça aussi. Donc j'ai commencé à le faire et là ça a été beaucoup plus dur.
Et Bob Marley dans tout ça?
Bob Marley, j'aime beaucoup aussi, bah en tant que métis déjà parce que c'était un métis. Et puis sa manière de combattre douce et efficace. En musique, mais tellement efficace dans la vraie vie, quand on connaît sa vraie vie, qu'on sait qu'il a sorti des pistolets contre des producteurs qui voulaient le... Enfin voilà, c'était quelqu'un de très 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 fort, très puissant, très mais intense.
Le métissage d'ici la peste, j'ai l'impression que ça revient beaucoup dans votre discours. Quelle expérience est-ce que ça a été pour vous?
Là où ça a été le plus compliqué pour moi, il y a eu deux périodes. Il y a eu la première, quand j'ai été pour la première fois confronté au... Je dirais pas au racisme, parce qu'un enfant qui dit « ouais, ça noir retourne dans ton pays », c'est pas du racisme, c'est juste il répète ce que ses parents ont dit. Mais du coup, c'est comme s'il m'avait appliqué une couleur que moi, je ne voyais pas, parce que j'ai grandi que avec ma mère qui est picarde, blanche aux yeux verts, et je connaissais pas mon père. Donc du coup, quand à la piscine, je me rappelle, elle s'appelait Anne-Lise, quand elle m'a dit ça, moi je comprenais pas en fait, parce que je la voyais pas ma couleur, j'étais entouré de... J'étais un petit bob tout, quoi. Et la deuxième fois, c'est quand il y a eu cette question sur l'identité nationale, où... chacun essaie de donner sa définition, c'est quoi être français. Alors moi, c'était très compliqué pour moi, parce que j'ai mon oncle Michel et ma tante Bernadette, quand je vais en vacances chez eux, et qui fêtent Noël, et qui boivent du vin, et qui mangent du camembert. Ben moi, je mange le camembert, mais je bois pas de vin. Donc, est-ce que c'est ça être français? Est-ce que c'est pas ça être français? Et puis, quand j'étais au quartier, et que je traînais avec un tel, et un tel, et un tel, enfin, bref. Donc, c'était très compliqué pour moi de donner une définition, et de savoir quelle était mon identité. Et du coup, je me suis dit, je suis un objet... non identifié.
Vous diriez que si votre vision du monde est métissée, votre musique aussi l'est avant toute chose, essentiellement?
Ouais, métissée, je sais pas si c'est le mot, en tout cas elle est mélangée, elle est éparpillée, elle est multiple, elle est mosaïquée de plein de choses, je ne me refuse rien et j'ai pas de définition à donner à qui que ce soit parce que je déteste qu'on m'en donne une.
Alors pas de définition, dans cette émission on va continuer à parler de multiplication ce matin avec Hiroshima, tiens, premier extrait de votre nouvel album This Is Ila, vous êtes sur France Inter avec This Is La Peste, vous écoutez Boomerang.
Daron, famille, je sais pas c'est quoi, poteau, ça va, coussi, coussa, je suis détaché, je m'attache pas, les liens, tout ça, je sais pas c'est quoi, Hiro. Hiro, Hiro, Hiroshima, Hiro, Hiro, Hiroshima, Hiro, Hiro,
bombe nucléaire entre mon père et ma mère. Je suis né en temps de guerre, je voulais pas m'entendre dire putain. La rue m'a eu, pourtant je trouve pas ma place dans ces putains de bahuts. Ah. Ira, ira, irradié. La nuit je me cache, je suis fou, allié. La vie je nage, je n'ai pas bien. Irradié par mon passé. Daron, famille, je sais pas c'est quoi. Ça va, coussi, coussa. J'suis détaché, ne t'attache pas. Les liens, tout ça, j'sais pas c'est quoi. Iron, Iron, Hiroshima. Iron, Iron, Hiroshima. Iron, Iron, Hiroshima. Iron, Iron. J'ai l'amour nucléaire, bébé. J'suis pollué, tu peux pas attraper l'éclair, bébé. Tu vas te brûler, daron, famille, tout ça, je sais pas comment on fait si jamais tu sais toi, si tu pouvais montrer, mais tu sais quoi, tu sais, je vais me tromper, y'a comme un faux vent moi que je sais pas dompter, donc compte pas sur moi, bébé, je sais pas compter, j'ai trop de blessures cachées, un jour je vais succomber, ah. Ira, ira, irradié, je m'ennuie, je clenche, je suis fou. Allié, la vie je nage, je n'ai pas pied, irradié par mon passé. Hiro, Hiro, Hiroshima. Hiro, Hiro, Hiroshima. Hiro, Hiro, Hiroshima. Hiro, Hiro. Yeah, yeah. Amputé au milieu d'un cratère, éloigné, solo, j'lance des allô à la terre. Allô, allô, plus de réseau, j'suis au milieu d'un cratère. Destin calciné, y'a que des bonhommes en pierre. Pollué, pollué, destin nucléaire. Pollué, pollué, dans le vent d'une mer. Passé, frelaté, irradié, plus de marche arrière. Démembré, amputé au milieu d'un cratère.
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
En vrai, il a rien d'une peste, ni d'un dinosaure, ni même d'un champignon nucléaire. Il est très sympathique, tout à fait humain, plutôt solide, le regard doux, un brin moqueur, parfois le visage décontracté, très zen, comme s'il sortait tout juste de son cours de yoga ou de tai chi, avec son haut noir et ses poches jaunes fluo, son sac en bandoulière, sa chaîne en noir avec des grandes boxes dessus. This is la peste, invité de Boomerang. Et dans le titre qu'on vient d'entendre, il y a cette phrase qui m'a interpellé autour de la rue et du fait que vous trouvez pas votre place dans ces putains de bahuts. Mm-hmm. En fait, l'école, quel lieu est-ce que ça a été pour vous?
Ah, c'est très compliqué pour moi parce que j'avais un rapport affectif d'ailleurs comme dans beaucoup de choses et donc j'étais dans cette espèce d'écueil où si je sentais pas le prof, je sentais pas le cours. Et du coup, ça m'a mis de côté, surtout à partir du collège, alors que franchement, j'avais plutôt des bonnes j'étais fait, je pense, pour ça.
Et c'est
pour ça que
j'ai
des bonnes dispositions, c'est pour ça que je l'ai repris après. J'ai repris après et j'ai eu mon bac et tout ça et tout.
D'autant que votre mère était bibliothécaire, donc vous avez grandi au milieu des livres d'ici.
Ouais, mais j'avais un problème avec l'autorité, j'avais un problème avec tout ça, comme pas mal de gosses, quoi.
Alors, il y a plus de 10 ans, effectivement, vous avez choisi de retourner au lycée pour passer votre bac, puis la fac. Ça a procédé de quelle intention, ça?
La première intention... Allez, vu que je suis avec vous, je vais dire la vérité. En fait, ce que je dis toujours, c'est que vu que j'ai des enfants, et que je disais toujours à mes enfants, travaille à l'école, travaille à l'école. Je redoutais le jour où vous allez me dire, tu nous dis de travailler à l'école, mais toi, t'as quoi? Mais en fait, la vraie, c'est que c'était un challenge personnel. C'était un challenge personnel parce que j'ai fait quelques émissions où je me suis fait humilier par rapport à la rhétorique et plein de choses comme ça. Je me suis un peu construit sur des humiliations. Et donc, du coup, je voulais me prouver quelque chose à moi-même et j'ai passé mon bac. Je l'ai eu avec 17,5 en français, mention bien. Je le dis, je suis très fier. Et après, j'ai fait du droit. Et puis après, j'ai repris la musique.
Et qu'est-ce que vous avez appris pendant ces années de parenthèse?
Bah en fait, j'ai appris beaucoup de choses parce que c'était très 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 intéressant. J'ai fait de l'histoire de l'art, j'ai fait de la philo, j'ai fait du français. Après, c'est des choses moi je lis depuis que j'ai l'âge de 12-13 ans, donc il y avait des choses que j'avais saisies. Mais le fait de me confronter à moi-même, de me confronter avec un professeur, c'est là où c'est intéressant. Parce que quand on est autodidacte, en fait, on manque un peu de confiance en soi parce que du coup, on se teste jamais. Donc, on ne sait pas est-ce que j'ai vraiment compris, est-ce que j'ai pas vraiment compris. Le fait de me mettre dans un système scolaire, ouais, ça a validé quelques acquis, si on peut dire.
Pourtant, c'est pas à l'école que vous avez appris à écrire des textes, This is La Peste.
Non, pas du tout. Mais c'est après, c'est, vous savez, moi, j'expliquais à mon fils qui passait son bac l'année dernière, je lui disais, en fait, c'est comme un passeport, le bac. C'est-à-dire que tu peux voyager sans passeport, mais tu vas devoir te cacher dans la cale d'un bateau, ça va être plus compliqué. Alors qu'avec le bac, ça va pas changer ta vie, mais c'est un peu plus facile pour voyager dans cette société.
Écrire d'ici de la peste, quand est-ce que vous avez su que vous aimiez écrire?
Quand j'ai lu. Moi, en fait, je procède par mimétisme. C'est-à-dire que j'ai fait de la musique parce que j'ai vu des gens qui faisaient de la musique et ça me plaisait. La littérature, j'ai commencé à lire à l'âge de 12-13 ans. Et mon premier livre, c'était La vie devant soi de Romain Gary. Ça m'a percuté la tête parce que j'étais absolument touché, puis c'était absolument drôle, et puis la fin, c'était absolument triste. Et du coup, bah, je me suis pas dit tout de suite j'ai envie d'écrire, mais en tout cas, j'ai eu envie de lire tout de suite après. Et à force de lire et de lire et de lire et de lire, bah, j'ai eu envie de m'y essayer. Et puis, ça par contre, c'était compliqué parce que je m'autorisais pas. Je me disais, pareil, j'étais dans des cases, non, c'est rive gauche, faut avoir 50 ans, la tempe grisonnante, c'est pas pour toi, sinon, truc, non. Donc du coup, je me suis fait violence pour écrire mon premier livre.
C'était quoi?
C'était Les Derniers de la rue Ponty, qui n'est pas très bonne facture parce que justement, j'étais dans un complexe d'infériorité, donc je voulais trop bien faire. Et du coup, il y avait un côté très scolaire, et ça manquait de feu, ça manquait de volcan, ça manquait de vrai, en fait. Même si l'histoire est belle, mais elle est un peu pétrie de clichés. Par contre, le second roman, là, je suis très fier. Je suis très, très fier de moi parce que j'ai écrit sans filtre. J'ai écrit, j'ai laissé ma plume s'exprimer comme elle devait s'exprimer. Et du coup, c'est un livre donc, ouais, qui s'appelle René, qui est sorti en 2012. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Et qui, en gros, anticipait pas mal de choses parce que j'étais inspiré par...
Chateaubriand ?
Par
René.
Non, oui, je sais, non, mais pas par Chateaubriand. Plutôt par Orwell, 1984, ou Le Meilleur des Mondes de Huxley. Et voilà, c'est un peu une dystopie. En fait, j'imaginais que l'extrême droite prenait le pouvoir et qu'elle mettait en place toute une batterie de lois répressives à l'égard des quartiers populaires. Et donc, dans cette batterie de lois, je disais que ils mettaient en place la francisation obligatoire des prénoms, toutes ces choses-là. Et j'ai vu que dans le programme du Front National pour l'élection d'après, il y avait ça, par exemple, et qu'il y avait un appel à un référendum pour le rétablissement de la peine de mort. En tout cas, ça planait, et moi, dans mon livre, je le mettais.
Très récemment, Éric Zemmour, à la télévision, a invité une chroniqueuse du plateau. Enfin, disons qu'il a dit qu'il aurait préféré qu'elle ait un autre nom, un nom plus français.
Ouais.
Oubliant, par la même occasion, qu'Éric est un prénom du Nord. C'est tout ce que je voulais rajouter.
Non, mais si on fait ça, à ce moment-là, il faut faire un grand nettoyage. Il y a plein de mots français, qu'on doit plus utiliser. Enfin, voilà, c'est justement ça qui fait la force de la France. Enfin.
Comment est-ce que vous savez qu'un texte est bon, vous, This is La Peste?
Quand je sens dans les tripes, moi, ça m'arrive souvent de pleurer quand j'écris, ou d'avoir un espèce de frisson, ou d'être, moi, j'écris un petit peu dans la transe, je mets le son très fort dans le studio.
Vous le dites tout haut,
Je le dis tout haut, vraiment, et je le sens, voilà, si j'ai les poils qui s'érissent, si ça touche une corde à l'intérieur, je me dis, bon, ça me touche moi, je pense que ça touchera des gens.
Vous êtes touché parce que vous écoutez aussi?
Oh, que oui. J'aime beaucoup Damso, par exemple. Je trouve que son écriture, justement, elle est très forte. Elle est très belle.
Qu'est-ce qui vous stimule aujourd'hui musicalement, autre que le rap français?
C'est les textures de voix et les nouveaux procédés. C'est pour ça que j'aime beaucoup James Blake, j'aime beaucoup Justin Vernon. J'aime beaucoup tout ce travail-là sur les voix et sur les émotions et sur les différentes strates à l'intérieur des émotions. Ça me touche beaucoup.
On va vous entendre, This is La Peste, parce que vous nous avez fait un cadeau ce matin. Un freestyle, rien que pour nous.
Un. On déchire sa mère à la naissance, on la déchire quand on quitte le foyer. T'as déchiré ton adolescence, tu t'es déchiré pour payer ton loyer. D'autres ont déchiré l'école, l'école me déchirait, je déchirais mes cahiers. Jamais été doué pour les protocoles, ça doit être de famille, la vie me le fait payer. Je suis déchiré. suis déchiré. Je suis comme coupé en deux, coupé en trois, coupé en mille morceaux. Oh, 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 oh. Yeah. Tu l'aimais, t'es infidèle, déchiré entre elle et elle. Tes rêves sont plus trop les mêmes qu'avant. T'es le roi, mais tes reines ont le même amant. T'es comme ton père finalement. Tu déchires les cœurs de maman. Ça te fait souffrir pourtant. Évidemment, évidemment, évidemment déchiré. Et déchiré. T'es comme coupé en deux, coupé en trois, coupé en mille morceaux. Oh, 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 oh. Y'a des choix si difficiles à faire. Ce genre de choix qui brûle, ouais. Quand tu sais qu'il n'y a pas de marche arrière. Quand t'es dos au mur, t'es comme coupé en deux, coupé en trois, coupé en mille morceaux. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Merci. Merci. This is La Peste, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que cet inédit est d'ores et déjà disponible sur le site de France Inter, mais aussi que votre nouvel album, This is La, est sorti vendredi. Vous serez également à l'Institut du Monde Arabe le 29 septembre pour une lecture du roman graphique de Farhat Alani, Le Parfum d'Irak. Et puis on vous attend à Radio France en novembre pour la lecture de la micro-nouvelle qui aura remporté notre grand concours dont vous êtes le parrain. Plus d'informations sur le site de Radio France. Et on n'oublie pas et qu'une tournée... Dites-moi.
Je serai au Zénith. Le 20 avril.
J'allais le dire.
Ah, là,
on n'oublie pas qu'une tournée dans toute la France s'annonce avec un zénith. Ah, moi, j'ai noté le 19 avril.
Non, c'est le 20 avril.
C'est le 20
avril.
Vous faites bien de me le dire.